petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, Franck, comme dit-on les chats, a eu plusieurs vies. Et il va nous en parler aujourd'hui, parce que, comme vous allez le constater, il a cheminé par des voies étranges pour arriver au métier qu'il exerce aujourd'hui et qui est celui de commercial en vin de la région de Banyuls. Franck, bonjour, merci de parler à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous commencé votre vie active?
Eh bien, ma vie active, après des études de commerce, je me suis orienté vers le métier de commercial dans les transports, dans la distribution, dans un premier temps national, dans un deuxième temps international, et ensuite comme directeur commercial export dans une société.
Et alors ça vous a amené à vous déplacer, comme vous le faites aujourd'hui, beaucoup, vous avez exercé ce métier, quand vous êtes passé à l'international, est-ce que ça vous a amené à visiter d'autres pays, d'autres clients?
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, donc, le transport national avec des visites de clients sur la région parisienne, et ensuite à l'international, où j'ai pu exercer en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, et aux États-Unis, puisque je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, pour mon travail international.
Alors ça, c'est très intéressant. Donc vous avez des souvenirs africains qui sont restés vifs, peut-être des nostalgies?
Oh, des beaux souvenirs, oui, puisque dans les années 80, j'étais en Côte d'Ivoire et au Gabon, et c'était un autre état d'esprit, c'était un dépaysement total, et avec des clients qui étaient différents de ceux que l'on trouvait en France, mais c'était passionnant.
Dans les années 80, au Gabon, c'était la grande époque, hein, ça devait bien marcher, là.
Oui, Gabon et Côte d'Ivoire, c'était l'âge d'or, on dira, pour les Français, pour les culs blancs, comme on s'appelait là-bas. Et c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, mais bien, dans une bonne ambiance.
Tout à coup, ou peut-être progressivement, vous prenez un virage très sec et vous orientez vers une autre activité.
Oui, ça c'était un atavisme familial. Après donc un poste de directeur commercial export, j'ai voulu changer, ne pouvant plus évoluer au sein de cette société. Et j'ai créé un restaurant de spécialité du Sud-Ouest en région parisienne, dans les Yvelines, à Guyancourt, à côté de Versailles. Et j'ai tenu ce restaurant pendant 25 ans.
Pour devenir restaurateur, il ne faut pas seulement une tradition familiale, il faut aussi quand même des connaissances culinaires et... Vous avez pris cette décision par passion pour la cuisine ?
Par passion pour la cuisine et par atavisme familial, puisque tant du côté paternel que maternel, ma grand-mère, mon grand-oncle, mon oncle étaient tous professionnels, restaurateurs, et j'avais exercé pendant mes vacances quand j'étais étudiant chez eux, et j'avais déjà goûté un petit peu aux joies de la cuisine et au plaisir.
Alors ce qui vous a orienté vers la cuisine, vers la restauration, c'est le désir d'être indépendant ou d'exercer un métier plus fixe, mais qui gardait quand même une dimension de contact avec les gens.
Mais j'avais toujours aimé servir en salle, dans les restaurants dans lesquels j'avais travaillé quand j'étais jeune, et j'avais envie de créer ma propre affaire, et l'opportunité s'est présentée à moi en achetant une vieille grange, en la transformant en restaurant, et ce restaurant qui était à Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt, je savais qu'il y avait un devenir sur la région important de par les sociétés qui s'y installaient, et j'avais donc décidé de créer cet établissement à cet endroit-là. Et c'était le village dans lequel j'habitais depuis l'âge de 7 ans.
Alors, vous avez parlé de spécialité du Sud-Ouest, quelle était votre grande spécialité ?
Ah, la grande spécialité, c'était le cassoulet maison, les magrets, bien sûr, les confits, parce qu'on faisait les confits d'oie, de canard, de poule, les foie gras, les gésiers, et voilà, toutes les daubes de canard au vin de Cahors, des plats... typique du Sud-Ouest et que la région parisienne appréciait particulièrement bien.
Tout ça, ça venait de vos origines familiales qui sont dans le sud-ouest, puisque en exerçant dans le Périgord, vous n'avez fait que vous déplacer le Germant, si j'en crois ce que vous m'avez dit.
Oui, puisque ma famille maternelle est originaire du Tarn-et-Garonne, de Moissac. Mon père est du Tarn de Carmaux. J'ai beaucoup de familles dans le Gers. Et c'est vrai que cet atavisme culinaire familial m'ont fait faire découvrir les spécialités régionales du Sud-Ouest à la région parisienne.
Dans votre métier de restaurateur, vous avez trouvé ce que vous attendiez ?
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir une très belle clientèle, un lien particulier avec beaucoup de clients. Et je me suis vraiment exprimé totalement avec bonheur et joie dans ce métier-là pendant près de 25 ans.
Alors, maintenant, vous avez fait un autre virage. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter la restauration ?
Mais la fatigue d'abord, parce que c'est un métier extraordinaire mais usant, hein, parce que c'est presque 15-16 heures par jour. Et un de mes clients, qui était devenu mon meilleur ami, et qui était de Dordogne, originaire de Dordogne, m'avait convié depuis de nombreuses années à venir en Dordogne passer quelques vacances. J'avais pas mal de relations ici. Et cet ami avait un représentant dans les vins de Bagnous et de Collioure qui souhaitait partir à la retraite. Et je voulais reprendre une fonction d'un métier commercial ayant trait un peu à la gastronomie. Et l'opportunité s'est présentée pour le remplacer au sein de cette société, Cellier des Templiers, dans les vins de Bagnous et de Collioure. Donc j'ai décidé de venir m'installer en Dordogne, que j'appréciais déjà à l'époque, avec mon épouse, et puis prendre ce métier de commercial dans cette société.
Donc vous n'avez pratiquement pas quitté le domaine commercial, mais après ce détour gastronomique, vous êtes quand même resté dans des choses qui intéressent le goût, hein, c'est-à-dire des vins, les vins de Bagnouls et puis des vins de qualité.
Oui, tout à fait. C'est un virage, mais toujours en restant un peu fidèle d'abord à la relation humaine, parce que je ne travaille qu'avec des clients particuliers. Et donc ce lien humain qui est très important, et puis la qualité des produits gastronomiques, toujours le plaisir de la table.
Alors, parlez-nous un petit peu des produits que vous vendez. Et c'est un petit peu curieux quand même, on est dans une région qui est assez proche quand même du Bordelais, qui abonde en bon vin. On est dans une région gastronomique, et là vous vendez des produits qui sont d'une région tout à fait différente.
Oui, tout à fait, mais je pense que les gens qui ont des belles caves, qui sont amateurs de vin, ne se contentent pas qu'à une seule appellation. Donc les vins que je représente sont des vins qui sont vraiment atypiques, puisque introuvables dans le commerce, et ce sont des vins de haute facture, de belle qualité, les Bagnouls qui sont merveilleux, comme vin doux naturel, comme apéritif, comme vin d'accompagnement, qui sortent de l'ordinaire, et les Collioure qui sont des vins des Pyrénées-Orientales, où le travail des vignerons est remarquable, le terroir est remarquable, des vins de belle facture, de belle qualité, qui vieillissent très bien, et c'est justement cette spécificité qui fait découvrir aux gens d'autres crus et d'autres plaisirs.
En vendant ces vins, j'imagine que vous avez l'occasion de vous rendre sur place assez souvent. Vous n'êtes pas tenté de vous établir dans cette région des Pyrénées-Orientales, qui a quand même des charmes aussi.
Oui, c'est une très belle région, Collioure, Bagnouls, toute la côte Vermeille, Port-Vendres, Cerbère, ce sont des endroits magnifiques. Y vivre, c'est assez difficile quand on n'est pas habitué, parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a 200 jours de vent par an, et c'est une chose, moi, qui me glace assez, parce que le vent, je l'aime pas trop. Et c'est très difficile à supporter. Il faut vraiment être du coin, du cru, pour supporter tout ça. Mais c'est une très belle région, avec 300 jours d'ensoleillement en moyenne par an. Et c'est vrai que c'est une carte postale pour les vacances. Mais y vivre toute l'année, j'aurais du mal, personnellement.
Quelles sont les caractéristiques, alors, des vins que vous vendez ?
Alors, les Bagnouls, vins doux naturels, ce sont des vins qui ont bénéficié de la première AOC de France en 1936. Ce sont des vins d'apéritif, d'accompagnement pour les foie gras, pour les desserts. Ce sont des vins qui vieillissent merveilleusement bien, parce qu'il n'y a pas de pérennité dans ces vins-là. Et les vins de Collioure, qui sont les vins de repas, comme les Bordeaux, comme les Bourgognes, rouge, blanc, rosé. Des vins de belle qualité, parce que nous avons des petits rendements. Et des vins qui sont très simples parce que nos vignes ne sont quasiment pas traitées. On fait juste deux passages à la bouillie bordelaise parce qu'avec le climat, le vent, on n'a pas d'humidité, pas de maladie. Donc des vins qui sont très sains et qui vieillissent merveilleusement bien. Et vraiment des vins qui ont beaucoup de fruits, beaucoup de chaleur de par l'ensoleillement et la force naturelle de nos raisins.
Depuis que vous faites ce métier, est-ce que vous avez vu une évolution de la consommation dans la zone où vous exercez ?
Oui, je trouve que les gens boivent moins, mais mieux. Je trouve que les gens se reçoivent de moins en moins, malheureusement. Il y a la convivialité de la table se perd un petit peu, moins dans le sud-ouest que dans d'autres régions. Mais les gens boivent au quotidien des vins plus simples, mais se font plaisir les week-ends ou lors de repas entre amis ou familiaux avec des vins de plus grande qualité. Et c'est là où nous intervenons avec nos vins, puisque les gens apprécient nos produits.
Les vins de Collioure sont des vins qui ont quand même pas du tout l'image qu'avaient les vins, disons, du Languedoc au sens large du terme auparavant.
Non, c'est un terroir qui est très, très petit, puisqu'il n'y a que 1200 hectares de vignes sur les quatre communes. Des rendements qui sont faits, puisqu'on est entre 20 et 30 hectos à l'hectare pour les Collioure et entre aux alentours de 14 hectos à l'hectare pour les Bagnous. Donc ce sont des vins de niche, vraiment, comme on dit, mais des vins qui ont pris le soleil de ce climat, de la rudesse du terroir, parce que ça pousse sur de la pierre, sur du schiste. Tout est en pente, incliné, tout est travaillé à la main, il n'y a aucune mécanisation possible. Et c'est ce qui fait la qualité, la rareté et la qualité de nos produits.
Tout à l'heure, vous me disiez que vous approchiez de l'âge de la retraite. Et est-ce que vous appréhendez ce moment ? Est-ce que vous savez déjà vers quoi vous allez vous orienter, puisque manifestement, vous avez toujours été un homme actif?
Oui, l'âge de la retraite est espéré et arrive dans 2 ans environ. Peut-être garder une petite activité professionnelle en gardant, parce qu'on a la possibilité de garder une cinquantaine de nos clients, pour toujours garder ce lien. Pourquoi pas, on verra. Et puis m'orienter vers autre chose. Oui, j'ai tellement de passions qu'à l'âge de la retraite, j'aimerais bien assouvir ces passions. Tout simplement.
Je pense que la passion pour la cuisine, vous l'avez conservée. Vous êtes toujours un cuisinier, toujours prêt à faire des bonnes choses.
Oui, la cuisine est une chose importante. Mon épouse cuisine merveilleusement bien. Nous avons des cuisines différentes et nous nous conjuguons tous les deux. Lorsque c'est elle qui cuisine, je fais le commis, la petite main. Et quand c'est moi qui cuisine, c'est elle qui fait la commise, la petite main. Plus je taille, nettoyage, etc. Et c'est vrai que passer des moments en cuisine pour élaborer un repas, c'est un plaisir, toujours, heureusement.
Et l'inspiration de votre épouse est la même que vous? C'est toujours le sud-ouest
Oui, toujours, ce sont nos bases, ce sont nos racines, mais disons que mon épouse a une cuisine beaucoup plus divers, elle fait de très belles sauces, des plats mijotés, et moi je suis plus sur des cuisines de printemps, d'été, avec des poissons, avec des choses marinées, fraîches, donc on se complète complètement.
Est-ce que vous envisagez d'avoir d'autres activités, ou est-ce que vous avez déjà d'autres activités, ou les violons d'Ingres que vous cachez? Je crois que vous m'avez un petit peu parlé de ça.
Oui, j'aime beaucoup écrire. J'écrivais des poèmes, j'écris des contes, donc l'écriture occupe une place importante. Et c'est vrai que peut-être à la retraite, j'envisagerai d'écrire un petit livre, un petit roman, quelque chose comme cela. Et puis aussi, bon, les balades en nature que j'apprécie, la découverte de jolis villages. Voyager aussi, mais voyager en France, en Europe peut-être. Pas faire de grands voyages, parce que malheureusement mon épouse ne peut pas prendre l'avion, mais découvrir pas mal de choses. Peut-être faire des voyages touristiques, gastronomiques dans d'autres pays.
Pas de nostalgie pour l'Afrique ?
Oh non, j'y ai passé quelques temps, j'ai travaillé aux Antilles aussi, en Guadeloupe. Maintenant, c'est derrière, et puis je voudrais voir autre chose.
Est-ce que vous pourriez nous dire un poème ou nous lire un texte de vous pour nos auditeurs ?
Oui, tout à fait. Je peux vous lire un petit conte de Noël, tout simplement, que j'avais écrit il y a 3 ans, pour un arbre de Noël dans mon village. Il était une fois, au fond de la forêt vosgienne, un petit village perdu dans la forêt qui s'appelait Clutzheim. Tous les habitants de ce village, les hommes, étaient tous bûcherons et travaillaient depuis plusieurs générations pour la scierie de M. Klutz, le maire du village. La tradition de Klutzheim était d'offrir au patron de la scierie le plus beau sapin de la forêt. Tous les bûcherons partirent et ramenèrent ce grand sapin pour l'offrir à M. Klutz. Ce dernier, comme à l'accoutumée, le fit placer dans sa bibliothèque auprès de la cheminée et tous ensemble le décorèrent de 1000 boules scintillantes et de petits personnages de Noël peints. Pour remercier ses employés, M. Klutz les invitait à un magnifique repas où tout un chacun se régala. L'autre coutume voulait qu'après ce moment, les bûcherons, tous alignés dans la cour de la scierie, au signal donné par le patron, M. Klutz, se précipitaient vers leur propre hache et filèrent vers la forêt pour y couper leur propre sapin, sapin offert par M. Klutz, afin que l'esprit de Noël puisse se déposer dans chaque maison du village. La forêt retentissait des voix, des rires et des bûcherons, et bientôt on entendit le bruit des cogniers et le chant des scies. Puis tout à coup, le silence se fit. « Je n'y arrive pas, » dit l'un d'eux. « Moi non plus, » répondit un autre. « Mais que se passe-t-il ? On dirait que les arbres, les sapins que nous avons choisis, sont durs comme de la pierre et qu'aucune hache, qu'aucune scie ne parvint à les couper. Quel est donc ce maléfice ?» Il revint auprès de M. Klutz à la scierie pour lui raconter cet étrange phénomène. Ce dernier, incrédule, prit sa propre hache, celle transmise de génération en génération depuis son arrière-arrière-grand-père, et escorté par ses bûcherons, prit le chemin de la forêt. Arrivé dans une clairière, il choisit un beau sapin, éleva sa hache et frappa de toutes ses forces. Aucune marque ni entaille, aucune trace n'apparut. Ils rentrèrent tous au village, remplis de questions et de craintes. À la mairie, M. Klutz, devant ses hommes, téléphona à l'ingénieur des eaux et forêts pour lui expliquer ce phénomène et lui demanda de venir dès le lendemain pour éclaircir ce mystère. La nuit tombait et chacun s'en retournait dans sa maison en espérant que, dès le lendemain, la solution serait trouvée. Plus tard dans la nuit, M. Klutz fut réveillé par un petit lutin qui lui dit « Es-tu sûr de pouvoir couper le sapin dès demain ?»« Oui, » répondit-il, « l'ingénieur saura pourquoi. » « Es-tu sûr que l'esprit de Noël est bien présent dans toutes les maisons du village ?»« Mais bien sûr, tous mes bûcherons ont été invités au repas et chacun aura son sapin. »« Eh non, » répondit le lutin, « il se trouve une maison où la joie et le bonheur des fêtes de Noël sont absents. » La dernière maison du village, un peu isolée, où habitent le petit Tom et sa maman Isabelle. M. Klutz réfléchit et s'aperçut qu'en effet, cette maison où habitaient le petit Tom et sa maman n'aurait pas de sapin pour Noël. Le papa du petit Tom s'était fait écraser par un arbre lors de la dernière coupe de printemps, et depuis, la tristesse y régnait. Tôt, le lendemain, M. Klutz convoqua l'ensemble des bûcherons, ainsi que le forgeron, et leur expliqua la visite et les paroles du lutin. Il fit fabriquer une belle hache aux proportions des mains du petit Tom, et tous ensemble, en délégation, ils partirent jusqu'à la maison. Là, solennellement, ils remirent la hache au petit Tom, et le prièrent de venir choisir et couper son sapin. Ils partirent donc jusqu'à la forêt. Tous les arbres semblaient s'écarter pour laisser passer le petit bûcheron jusqu'au plus joli petit sapin que l'on ait jamais vu, tout touffu, avec une belle cime droite qui portera fièrement l'étoile. Un seul coup de hache suffit à le couper. Et c'est sous les hurrahs et les applaudissements que le petit homme ramena fièrement son sapin jusqu'à la maison de sa maman. Un autre phénomène étrange se produisit en même temps. Tous les autres sapins choisis par les bûcherons tombèrent seuls et arrivèrent dans chacune des maisons du village. La joie et le bonheur étaient de retour dans ce village de Klutzheim, et l'esprit de Noël pouvait enfin enluminer le cœur de chacun. M. Klutz déclara Tom bûcheron d'honneur de la ville, et l'invita, ainsi que sa maman, à partager son dîner de Noël en famille avec les siens. Et nul ne sait comment le Père Noël l'apprit, mais Tom reçut le plus beau des cadeaux dont il avait rêvé au pied du sapin de chez M. Klutz.
Merci Franck de ce joli conte de Noël. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Est-ce que vous avez dit que vous étiez originaire du Sud-Ouest, donc ce n'est pas des origines nordiques ou lorraines ou alsaciennes qui vous ont guidé ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce conte et pourquoi l'avez-vous écrit ?
Ben, vous savez, j'écris d'abord dans ma tête. C'est marrant parce que je crée mes phrases dans ma tête, ensuite je prends la plume. Et le sapin, la forêt vosgienne, c'est là où il y a beaucoup de sapins. J'avais voulu transmettre aussi cet esprit de Noël que l'on trouve sur les marchés de Noël en Alsace. Et tout simplement, j'ai un petit délire de création qui s'est produit dans ma tête et j'ai écrit ce petit conte.
Vous l'avez écrit pour des enfants, pour un public particulier ou
Mais dans mon village, à Saint-Vincent, on a l'arbre de Noël où tous les enfants sont conviés, on raconte des contes, des histoires, on chante, et j'avais écrit pour les enfants ce petit conte.
Et quand vous écrivez de la poésie, quelle est votre inspiration?
Oh, plein de choses. Ça peut être une situation, ça peut être un lieu, ça peut être un ressentiment. Ça dépend.
Quand vous êtes dans votre voiture et que vous sillonnez les routes de la Dordogne, en direction de vos clients, il vous arrive de composer, d'avoir des idées et puis de les mettre en ordre pour...
Non, là c'est plutôt la nuit, quand j'arrive pas des fois à dormir, que je m'écris dans ma tête, j'écris dans ma tête, et puis des fois je me lève, je prends la feuille pour coucher ce que j'ai écrit dans ma tête, et ça vient comme ça.
Et ça c'est une activité que vous faites, que vous avez depuis longtemps, et que vous envisagez de continuer quand vous serez à la retraite ?
Oui, j'ai écrit depuis l'âge de 15-16 ans, à l'époque beaucoup de poèmes, et c'est effectivement à la retraite, j'aimerais bien écrire un petit livre, un petit roman sur des histoires passées, ou que j'ai vécues, ou que je pourrais transposer.
Un roman autobiographique un petit peu ?
Peut-être autobiographique sur ma jeunesse, oui, effectivement.
Et dans la poésie, vous êtes attiré par quel thème ?
Ben, le romantisme principalement, bien sûr. Le romantisme, les sentiments, voilà.
Vous avez des poètes préférés, une école préférée ou une période préférée ?
Ah, j'aime beaucoup Baudelaire, j'aime beaucoup Ronsard, Boileau, sont des choses que j'ai lues et qui me touchent au cœur, oui.
Donc vous avez une inspiration plutôt classique, alors, des sources qui sont plutôt classiques, des sources d'inspiration qui sont plutôt classiques.
Oui, classique et le romantisme et le classicisme, tout à fait.
Est-ce que ça vous paraît en relation avec le métier que vous exercez maintenant depuis assez longtemps, ou les métiers que vous avez exercés auparavant, et qui nécessitent une maîtrise de l'expression quand même qui permettent de faire face à n'importe quel type de clientèle et puis de défendre ce qu'on veut vendre ?
Mais je pense que d'abord, lire est une chose importante. De par la lecture, on apprend des mots, on apprend un vocable. Et puis la façon de parler est une chose importante parce que c'est le lien qui est entre deux personnes, c'est la parole. Et la parole est une chose qui doit être articulée et qui doit être intelligemment émise et avec des sonorités et avec des mots choisis. Et c'est assez important. La langue française est tellement belle qu'il faut l'utiliser à bon escient et puis l'enrichir personnellement.
Alors ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette espèce de perte du beau langage, en particulier par la jeune génération, est-ce que ça vous inquiète ? De même aussi que... le fait que la jeune génération s'intéresse beaucoup moins au bon vin et aux bonnes choses qu'elle le faisait auparavant.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'attriste profondément. Je pense qu'il n'y a plus de lien humain, que notre société qui va tellement vite, qui est informatisée, électronique, coupe le lien humain, la relation humaine. Et la gastronomie, je pense qu'il y aura toujours cet atavisme important, parce que même les jeunes aiment bien manger un bourguignon de leur grand-mère, de choses comme ça. Et ça, je pense que c'est peut-être mis de côté, mais ça ne sera pas perdu. Le vin...
C'est... À condition qu'il le déguste pas en buvant du Coca-Cola.
Oui, voilà, mais ça fait partie de l'éducation. C'est à nous, les parents, d'éduquer nos enfants à d'abord à cuisiner, à savourer, et à partager et à apprécier.
Est-ce que vous vous définiriez comme un épicurien ?
Oui, tout à fait, même je le revendique.
Est-ce que maintenant, au moment où vous allez aborder votre vie de retraité ou bientôt, vous le faites avec une certaine appréhension ?
Non, pas d'appréhension particulière. Simplement rester en bonne santé et puis profiter de la famille. Ça, c'est une chose importante avec mes enfants, mes petites filles. Et ça, c'est justement être plus proche pour pouvoir mieux en profiter.
Quand vous jetez un regard sur la vie que vous avez eue, diverses, puisque, comme je le disais, vous avez eu plusieurs vies très actives. Est-ce que vous avez des regrets ?
On a toujours des regrets de ne pas avoir pu faire certaines choses, mais il ne faut pas regarder en arrière, il faut au contraire avancer et puis évoluer. Mais nourrir des regrets, ça met du spleen. Bon, ça peut être bon pour certains poètes, mais j'en suis pas là.
Vous conservez quand même... Alors, vous êtes un épicurien optimiste.
Oui, optimiste, oui, parce que l'homme est une chose importante et il faut garder ce lien entre les hommes. Et l'optimisme, c'est de rester humain, et de rester humble.
À cet égard, quel regard portez-vous, bien que vous soyez maintenant quand même un périgourdin d'adoption de longue date, quel regard portez-vous sur la région où nous vivons, sur les rapports humains, sur la vie quotidienne ?
Mais la Dordogne est une région de tradition, avec, au niveau culinaire, au niveau gastronomique, et au niveau de l'habitat. Il y a des villages magnifiques, c'est une région des paysages extraordinaires. Et les gens en Dordogne sont chaleureux et sont très ancrés dans leur tradition, gastronomique, et ils la défendent avec vivacité, et ça c'est très important. C'est une richesse sur ce département.
Vous avez l'intention de prendre votre retraite en Dordogne ou de revenir à vos sources familiales ?
Non, je pense que je resterai en Dordogne, puisque mes enfants sont installés en Dordogne, mes parents qui sont encore vivants sont en Dordogne également, donc je vais rester là. Peut-être par la suite envisager peut-être un pied-à-terre au bord de la mer, vers les Landes, parce que c'est une région qui me touche aussi. Mais la Dordogne, oui, parce que ce sont maintenant mon ancrage jusqu'à la fin de ma vie.
Vous êtes attiré par la mer parce que ça vous permettrait de faire quelques cuisines de poissons agréables ?
Non, pas spécialement, parce que le poisson, on en trouve partout, mais la mer est une chose qui est reposante et apaisante à mes yeux. Et l'eau est une chose aussi qui m'attire. J'ai toujours aimé nager, j'ai toujours aimé être dans l'eau, et l'eau me ressource.
Je vais terminer par une question, alors peut-être plus personnelle. Vous êtes manifestement un amateur et un épicurien, non seulement pour la gastronomie, mais également pour la vie quotidienne et le contact avec la nature. Est-ce que vous êtes pessimiste au sujet de l'évolution de la nature qui nous entoure ?
Oui, malheureusement, oui, parce que la déforestation, les produits chimiques, les pesticides, et puis tout ce que cela entraîne, il faut préserver cette nature. Quand je vois les rivières que nous avons en Dordogne, qui ne sont pas entretenues au niveau des rivages, au niveau des rives, pardon, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'associations bénévoles pour remettre en place ces choses-là, puisque l'État ne le fait pas, ou les structures ne le font pas. Donc c'est vrai que là, la vie associative peut apporter des remèdes.
Vous avez l'intention de vous engager un peu dans la vie associative si vous regrettez les ruisseaux et crevisses pour essayer de les faire revivre?
Oui, dans la vie associative, certainement. Peut-être pas spécifiquement au niveau de la nature, mais il y a tellement de choses à faire. Déjà, aider son prochain. Aider son prochain, c'est une chose importante. Quand on voit le nombre de gens qui dorment dehors à notre époque, des gens qui n'ont pas à manger, c'est vrai que oui, s'investir un peu dans des associations humanitaires, oui, ça peut apporter un enrichissement personnel, et puis ça peut aussi soulager quelques misères. Ça, c'est important.
Franck, merci beaucoup de votre leçon d'optimisme mesuré, et nous vous souhaitons une bonne chance, une bonne continuation de votre métier jusqu'à ce que vous entamiez votre nouvelle vie.
Merci à vous.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.